Amis lectrices, amis lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de littérature. J'y chronique des livres, on discute d'une lecture coup de cœur avec une ou un invité, je vous raconte la vie d'auteurice célèbre ou oubliée, ou bien encore, j'invite une écrivaine ou un écrivain pour parler de son dernier livre. Dans cet épisode, on se met à table avec Camille P. J'ai eu envie de l'inviter pour parler de son livre « Mère Lachaise, sans portrait pour déterrer le matrimoine funéraire » qui dresse le portrait d'une centaine de femmes enterrées au Père Lachaise. Si le cimetière est connu pour ses grands noms masculins, saviez-vous qu'il y repose également plein de femmes ? Des écrivaines, des comédiennes, des peintres, des résistantes, des cinéastes, des sculptrices, des mathématiciennes, tant de femmes dont on ne connaît pas le nom, car l'histoire ne les a pas retenues. Pendant plusieurs années, Camille P. s'est lancée sur leurs traces. Elle les a répertoriées, a retracé leur histoire, créé une page Instagram dédiée pour sortir de l'ombre et réhabiliter toutes ces femmes oubliées. Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Le Banquet.
Ah bah bonjour Pauline, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire cet entretien avec toi pour parler de ton livre « Mère Lachaise, sans portrait pour déterrer le matrimoine funéraire ». Mais avant de discuter de sa création, d'où t'es venue l'idée, j'aimerais beaucoup qu'on parle de toi. Si on fait un petit bond dans le temps, qu'on revient à ton enfance, ton adolescence, quelle lectrice étais-tu ?
Quelle lectrice j'étais ? J'étais une lectrice vorace. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai une mère qui lit énormément et qui m'a fait lire très tôt beaucoup de livres. Du coup, j'étais une lectrice, disons, quasiment compulsive, ce qui fait que j'ai beaucoup lu, notamment de classiques, par exemple, quand j'étais très très jeune. Et ça n'a pas forcément fait de moi quelqu'un de très connaisseur des classiques de la littérature française. Parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de choses quand j'étais, je pense, un peu trop jeune pour les comprendre et les assimiler. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues qui se sont mélangées, qui sont restées, qui m'ont donné l'intérêt pour les mots, sans forcément rester dans le sens académique du terme, voilà.
Et est-ce qu'il y a un livre en particulier, certains, je sais pas, qui t'ont marqué, de certains auteurs, certains, je sais pas, est-ce qu'il y en a un ou deux ?
De mon enfance, je suis pas sûre que je puisse trouver des livres qui m'ont énormément marqué. Maintenant, adulte ou en grandissant, les livres qui m'ont marqué, enfin, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Disons que ces dernières années, si on essaye de rendre ça un peu moins large, je pourrais citer L'affamée de Violette Leduc, qui est un livre qui m'a complètement dévoré de l'intérieur. Je sais pas comment et pourquoi, mais vraiment qui m'a pris tout mon espace mental pendant le temps où je le lisais et qui est resté complètement présent depuis.
D'accord.
Je pourrais citer « Dans la forêt » de Jean Hegland, que j'ai adoré et que j'offre frénétiquement depuis. Je pourrais citer « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme, que j'ai lu il y a très peu de temps et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un récit d'anticipation féministe qui se passe sur les ruines d'une espèce de société féministe qui est décrite dans Les Guerrières de Monique Wittig.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc, ce goût de la lecture que tu as eu enfant, t'es resté, en fait, finalement, grandissant. Parce que des fois, on s'en écarte, puis on y revient. Ou des fois, on s'en écarte complètement. Donc, toi, ça, c'est vraiment resté, en fait, finalement.
Je m'en suis écartée.
Ah, tu t'en es écartée, d'accord.
Pendant pas très longtemps. Mais je m'en suis écartée pendant un moment, au moment où j'ai eu un ordinateur portable, je te dirais. Et au moment où j'étais étudiante aussi, où du coup j'avais l'impression d'avoir mieux à faire, c'est-à-dire être avec mes copains et boire des coups. J'ai retrouvé le goût de la lecture quand je suis arrivée à Paris avec le métro, en fait.
Ah,
parce
oui.
Quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à prendre le métro et j'ai trouvé que c'était un moment... il fallait bien faire quelque chose, déjà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un environnement incroyable pour lire. Enfin, moi, j'adore lire dans le métro, j'entends rien à ce qui se passe. Peut y avoir une fanfare qui monte, ça change rien du tout. Enfin,
t'es dans ta bulle.
Je suis complètement dans ma bulle et c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment très bien pour lire. Et ça m'a remise dans cette lecture que j'avais un peu, dont je m'étais un peu écartée à ce moment-là.
Je partage un peu ce, ce moment métro à utiliser. Ça passe super vite, du coup.
C'est ça. Dès que je lis pas dans le métro, même si c'est quand je suis en train de discuter avec des gens, je trouve que les voyages passent vraiment très lentement.
C'est lent, oui. C'est vrai. Si on en revient un petit peu à ton parcours, j'ai lu que tu es aujourd'hui journaliste à Libération. C'est bien ça?
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, c'est-à-dire tes études, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire?
Alors, il n'y a rien d'ultra passionnant dans mes études, dans le sens où j'avais une idée fixe depuis que j'étais plus ou moins adolescente de devenir journaliste. Donc, j'avais décidé très tôt que c'est ce que j'allais faire. J'ai quand même fait une fac un peu généraliste parce que mes parents n'étaient pas forcément très... très fan de l'idée du journalisme, il n'y a pas forcément beaucoup de places, de postes, etc. Donc j'ai fait une première licence un peu générale et ensuite j'ai fait une école de journalisme, la voie classique pour devenir journaliste en France. J'ai fait l'école de journalisme de Marseille, le JICAM, donc un master. Et après ce master, je suis arrivée à Paris parce qu'il n'y avait pas particulièrement de possibilités, ou très peu, de devenir journaliste à Marseille.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc j'ai débarqué à Paris, disons, et j'ai travaillé pendant un petit moment à la Croix, et j'ai été embauchée à Libé assez rapidement, voilà.
Ok, donc somme toute assez simple, mais
c'est très direct,
pas eu d'embûche particulière, j'ai envie de dire.
Non.
Si on en revient à ton livre, du coup, qui est sorti, qui s'appelle, donc je le rappelle, « Mère Lachaise sans portrait pour déterrer le matrimoine funéraire ». Bon, alors, tout le monde connaît, je pense, le cimetière du Père Lachaise, qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris.
Ouais, à cheval avec le 11e.
En fait, il est très connu grâce à ces hommes célèbres qui y sont enterrés. Et je dis bien « hommes » parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes. Donc, je veux qu'il y avait des comédiennes, des peintres, des sculptrices, enfin, il y a vraiment... plein de corps de métier, j'ai envie de dire, artistique.
Ouais, artistique ou pas d'ailleurs, ouais. Parce qu'on a aussi des mathématiciennes.
T'as raison, oui, effectivement, résistantes, j'ai lu. Ah, de tout, j'ai envie de dire.
Ouais,
mais en tout cas, on ne connaît pas leur nom, ça c'est le point commun malheureusement. Du coup, je raccorde parce que du coup, tu nous as raconté que tu étais montée à Paris pour travailler. L'histoire de ton livre commence quelque part avec ta montée à Paris.
Oui, c'est un peu ça.
Pendant plusieurs années, tu es partie en fait à la rencontre de ces femmes, de leurs histoires. Tu les as répertoriées, tu les as croquées. Et surtout, tu as partagé tout ton travail sur Instagram. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse, en fait, nous retracer l'histoire de ton intérêt pour ces femmes dans ce cimetière jusqu'à la publication du livre?
Eh ben, du coup, ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans peut-être, que je vis à Paris, et sur ça, à peu près 4 que je vis dans le 11e arrondissement. Donc c'est plus que mon arrivée à Paris, c'est mon arrivée dans ce quartier qui est à l'origine de mon intérêt pour le Père Lachaise, qui était devenu mon voisin et surtout l'espace vert le plus proche de chez moi. Le grand espace vert le plus proche de chez moi, en tout cas. Donc j'ai commencé à y passer pas mal de temps, qui était à la base plutôt du temps de balade, en fait, du temps de promenade. Et puis quand on est dans un endroit comme ça, avec ses histoires, ses grands hommes, disons ça avec des gros guillemets, on a tendance à effectivement aller voir les tombes. Donc j'ai commencé à aller me faire des espèces de petits pèlerinages pendant mes visites, à aller voir la tombe de Paul Éluard, qui est un poète que j'aimais énormément quand j'étais adolescente, que j'aime toujours beaucoup, mais qui était vraiment mon poète quand j'étais ado. Aller voir la tombe d'Alain Bachung,
ces grands noms,
voilà, à me promener, aller voir la tombe de Jim Morrison comme tout le monde au début, à voir qu'elle n'est pas si jolie que ça. Voilà, enfin, j'ai commencé à faire ce parcours un peu classique du pèlerineur du cimetière du Père Lachaise. Et ça m'a mis un petit moment de ce genre de balade pour me demander comment ça se fait que je n'étais jamais allée voir une femme. Mais après longtemps, il m'a fallu un moment.
Combien de temps à peu près est-ce que tu saurais un peu? Enfin, je sais pas, une année
Ouais, je dirais une bonne année au moins,
ah,
ouais.
Oui. Mmh.
Du coup, pour si on veut revenir à Paul Éluard, par exemple, mon poème préféré de Paul Éluard, c'est « Ma morte vivante », qui est issu du recueil « Le temps déborde », qu'il a écrit à la mort de sa femme Nouche. Donc, dans ce poème, il parle du tombeau. Il dit « Et l'avenir, mon seul espoir, c'est mon tombeau, pareil au tien cerné d'un monde indifférent ». Il parle de la tombe de Nouche. Et en fait, Nouche n'est pas enterrée avec lui. Donc quand on est sur la tombe de Paul Éluard, on n'est pas sur la tombe de Nouche dont il parle dans ce poème-là. Et en fait, je m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite, quoi. Voilà, j'avais ce poème en tête tout le temps quand j'étais là-bas. Et malgré ça, j'ai mis longtemps à me demander où était son nom à elle. Et quand je me le suis demandé, que j'ai cherché où elle était enterrée, je me suis rendu compte qu'elle était elle aussi enterrée au Père-Lachaise, mais plus loin. Et en fait, aller voir sa tombe à elle, ça m'a fait ce déclic de me demander comment ça se faisait que après tout ce temps, je ne sois jamais allée rendre visite aux tombes des femmes.
Ah oui, d'accord. De là est parti une sorte de déclic de te demander, tiens, mais où sont-elles? Pourquoi je suis allée automatiquement voir celle d'un homme, en fait? Peut-être c'est ça qui t'a fait tilt un peu.
Bah, je me suis demandé même si elles étaient là, en fait.
Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Enfin, inconsciemment, ouais. On a vraiment ce... Puis même, en fait, ce qu'il y a, c'est que même le nom du cimetière, c'est insidieux, quoi. On se dit, bah oui, non, ouais. Mais c'est des hommes. Enfin, inconsciemment, on pense que c'est un cimetière d'hommes, en fait.
Ouais. En fait, on en a fait même dans l'imaginaire collectif un panthéon.
Oui, oui, oui,
et
c'est vrai.
C'est pas le cas. C'est pas un panthéon, c'est un cimetière dans lequel sont enterrés monsieur et madame tout le monde. Un cimetière qui est parisien, donc dans lequel sont enterrés plutôt des gens qui ont vécu à Paris. Un cimetière qui peut être cher, donc dans lequel sont plutôt enterrés des gens, disons, qui ont été un peu aisés. Mais sinon, c'est un cimetière, quoi. C'est un cimetière normal.
Oui.
C'est pas le Panthéon, quoi.
Et tu as fait des recherches sur elle, du coup? Enfin, quelle a été pour toi l'étape suivante, en fait? Où tu t'es dit, bon, je vais m'intéresser à ça.
L'étape suivante, c'était de me dire... c'est quand même un peu la honte. Je suis quelqu'un de féministe qui passe son temps dans un cimetière et qui n'est jamais allé voir une femme. Il va falloir remédier à ça. Donc je me suis dit, je vais me faire une liste. Je vais me préparer une visite qui sera mon parcours, mon prochain parcours sur les tombes de ces femmes. Donc j'ai commencé à noter les plus connues tout d'abord, Colette, Sarah Bernard, Edith Piaf, les noms, enfin, je pense que là, je viens de citer les femmes dont les tombes sont les plus visitées au Père Lachaise. Et ensuite, d'autres, donc Gertrude Stein, Rosa Bonheur, Anna de Noailles, Unica Zurn. J'ai commencé à faire une liste, voilà, sur laquelle il y avait quelques premiers noms. Et j'ai commencé à aller sur leur tombe et je me suis dit que c'était assez puissant, en fait, d'être sur la tombe de quelqu'un dont on sait qu'elle n'est pas forcément très visitée. Et je me suis dit, bah, je vais pas faire ça juste pour moi, je vais embarquer mes potes.
Ah,
donc
ouais.
J'ai commencé à mettre, enfin, à leur dire, bah, si vous venez avec moi au Père Lachaise, je vous fais une visite des femmes cool que j'ai vues là-bas, machin. Ça a commencé par des petites visites guidées privées avec mes amis, disons.
D'accord. Et alors, je sais plus où j'ai lu ça, mais l'idée qu'on réduit les femmes à des compagnes, à des muses, c'est quelque chose qui t'a agacé, je sais plus où j'ai lu ça, et tu t'es dit non mais il va falloir réhabiliter tout ça,
ouais.
Parce que c'est pas possible de placer ces femmes, enfin au second plan, quoi.
Ça c'est du coup, c'est à peu près à ce moment-là, j'avais trouvé trouvé. Il existe un plan des femmes enterrées au cimetière du Père Lachaise qui est édité par la ville de Paris, qui édite également le plan des sépultures les plus demandées, c'est-à-dire donc quasiment que des hommes. Et sur ce plan, il y a une catégorie muse et compagne.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et j'ai trouvé ça un peu honteux, quoi. Et je me suis dit, ça serait pas mal de pouvoir les en sortir, si possible.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'idée de découvrir l'histoire de ces femmes? Parce que j'imagine que tu as cherché leur nom, mais que tu as cherché aussi leur histoire, c'est peut-être l'étape suivante encore. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait? C'est de croiser l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H.
Le premier truc qui m'a plu avant ça, c'est les recherches. c'est les registres d'inhumation, trouver un nom écrit à l'encre, l'année de son inhumation, aller dans le cimetière, trouver la tombe alors qu'on n'était pas sûr qu'elle soit encore là, enfin, un espèce de truc de recherche, un peu un thrill de la recherche que doivent avoir les historiens ou les gens qui font de la généalogie et que je ne connaissais pas jusque-là. Ça, c'est le premier truc, je pense, qui m'a vraiment attrapée, quoi. Et ensuite, c'est ça, c'est découvrir à travers des histoires, les histoires de ces femmes, là où elles s'inséraient dans la grande histoire, l'histoire avec un grand H. J'ai eu aussi l'impression que je faisais un puzzle. J'étais pas forcément férue d'histoire. J'avais probablement beaucoup de lacunes sur pas mal de périodes historiques. Et tout d'un coup, j'avais l'impression de remplir un puzzle, l'histoire de Juliette Dodu dans la guerre franco-prussienne, arrivée juste avant, l'histoire de Malvina Poulain dans la Commune, les réseaux de résistance prenaient un truc vachement plus tangible quand tout d'un coup, c'était l'histoire de Marie-Madeleine Fourcade qui était à la tête d'un réseau d'informateurs qui faisait passer les informations à l'Angleterre, etc. Enfin, en fait, j'ai découvert un intérêt pour l'histoire à travers un espèce d'infiniment petit, quoi.
Finalement, on rentre dans des périodes très précises, en fait, selon les femmes en question, genre la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a même les premières vagues féministes avec certaines. Ouais. Enfin, voilà, ça permet vraiment de... C'est une porte d'entrée, en fait, finalement.
Ouais. Bah, la première vague féministe, pareil, c'est quelque chose que même en tant que personne instruite sur le féminisme, je ne connaissais pas du tout, en fait. Enfin, je me doutais qu'avant la deuxième vague, il y avait eu une première vague, mais, la comprendre... son fonctionnement, ses dissensions aussi, à quel point c'était peu homogène, ce qui est normal dans un mouvement militant. C'est les différents combats, celui pour le droit de vote, celui pour le port du pantalon, celui pour le droit à la violence féminine, provoquer des personnes en duel. Enfin, il y avait énormément de personnes, énormément de points de vue, des publications, des journaux, des courants. Voilà, c'était très vaste et c'était passionnant et c'était très très radical sous plein d'aspects, alors qu'on a beaucoup tendance à dire aujourd'hui que le féminisme c'était mieux avant et que avant les femmes avaient des vrais combats et ben sauf qu'en fait si on se plonge un peu à la fin du 19e, on se rend compte que le masculin qui l'emporte sur le féminin, la récupération du masculin dans la langue, c'était déjà un sujet.
C'était déjà un combat, d'accord.
Ouais. Il y a beaucoup de choses qui, quand on s'y plonge, en fait, résonnent beaucoup avec maintenant. Voilà.
D'accord. J'imagine que du coup, tu as pris des milliers de notes.
Ah oui, j'ai pris des milliers de notes.
Enfin, comment est venue l'idée du compte Instagram, en fait? Parce que j'imagine que c'est l'idée de se dire, tout ce que j'ai découvert, il faut bien le partager quelque part.
C'est ça. C'est vraiment exactement ça. Je croulais sous les informations et je ne savais pas du tout quoi en faire. Je me sentais un peu même écrasée sous ça, parce que les visites, j'ai fait des visites avec mes amis, et puis au bout d'un moment, j'avais tellement de trucs que ça pouvait même plus tenir dans une visite, donc je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais ? La première idée que j'avais eue, c'était d'en faire un livre.
Ah, c'est marrant ça.
Ouais. Je voulais en faire un livre, mais je travaille, je connaissais pas forcément le fonctionnement du monde de l'édition, etc. Et du coup, j'ai pas vraiment lancé les démarches. J'ai un tout petit peu commencé, mais après, ça m'a un peu... je me suis sentie écrasée, pareil, sous le poids de la tâche. Et du coup, je me suis dit, on verra plus tard. Et dans tout ce processus-là, j'ai une amie qui m'a dit, mais c'est quand même dommage que tu en fasses rien que pour juste brut, partager toutes ces informations que t'as, et tu devrais en faire quelque chose, quoi. Et c'est elle qui m'a conseillé le compte Instagram, qui m'a dit, tu y mets l'implication que tu veux, t'es pas obligé de le faire 24 heures sur 24, mais ça peut être un moyen de partager ce que tu as fait. Et j'étais tout à fait sceptique, très honnêtement.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Tu t'es dit, ça va intéresser personne, en fait.
Bah, non seulement, oui, je savais pas vraiment faire. Je n'étais pas sûre d'être capable de faire ça. Et je me suis dit que ça allait intéresser personne, en effet. Et bah, finalement, ça a intéressé des gens. Donc, du coup, elle a eu raison. Et je lui dis régulièrement que j'avais tort et qu'elle avait raison.
Et une question que je me pose, c'est comment tu t'y es prise, en fait, dans le sens où... pour trouver toutes ces femmes, pour avoir toute cette liste, comment est-ce que tu t'y es prise? Est-ce que tu te promènes dans le cimetière, tu tombes sur un nom et tu dis, tiens, qui est-ce? Et tu te lances dans des recherches ou voilà, comment tu enquêtes?
Alors ça arrive. Ça arrive, mais ça, c'est extrêmement marginal. Parce que si je voulais googler le nom de chaque femme que je vois sur une tombe, 99% des fois, je tomberais sur rien du tout. Parce que c'est quand même beaucoup d'anonymes. Il faut pas qu'elle s'appelle Julie Vincent, parce que sinon, jamais on n'aura aucune information. Ça nécessite quand même effectivement d'avoir des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça nécessite que la personne ait vraiment une page Wikipédia en bonne et due forme. Voilà. C'est pas forcément le plus simple. Les contextes où ça peut marcher, c'est quand il arrive que, par exemple, je me rappelle que ça avait été le cas pour Madeleine Smith Champion. Sur sa tombe, il y avait vraiment écrit sa qualité, son métier. Grâce à ça, je m'étais dit, effectivement, bon, ça veut dire que quelqu'un a trouvé qu'elle avait suffisamment marqué avec son métier pour que ce soit inscrit sur sa tombe. Dans ces cas-là, il y a plus de chances de trouver une trace d'elle, disons. À part ça, les autres solutions, il y a la plus simple, qui est celle que je suis quand même pas du tout la seule à faire ce genre de travail. Peut-être que je suis une des seules à le centrer sur les femmes, mais des gens qui sont passionnés de cimetières, qui font des recherches très très poussées sur les cimetières de France, il y en a quelques-uns.
Des blogs, tu veux dire, c'est ça?
Ouais, des sites même assez structurés, comme celui d'un monsieur qui s'appelle Philippe Landru, qui a un site qui s'appelle Landru Cimetière, qui est une mine d'or. C'est quelqu'un qui arpente les cimetières depuis des années et des années, des dizaines d'années, et qui donc note les personnalités avec des microbiographies. Et ça, c'est une source et assez incroyable pour les passionnés de cimetières. Dans la section commentaires de son site, il y a toujours des gens qui rajoutent des infos, qui en enlèvent, qui donnent des précisions. Enfin, c'est vraiment un endroit hyper vivant. Il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis et Passionnés du Père Lachaise, qui notait aussi pas mal de personnalités inhumées au Père Lachaise. Ça, c'est pareil, ça m'a vachement aidé à un moment. Enfin, les passionnés de cimetières sont généralement des gens qui aiment beaucoup, je pense, cet aspect recherche aussi, et qui font pas mal, enfin qui font beaucoup de travail. Il faut que je rende aussi à César que beaucoup de ces personnes-là m'ont énormément aidé. Sur Wikipédia aussi, il y a des passionnés du Père Lachaise qui sont aussi des wikipédistes assidus et qui mettent notamment beaucoup de photos des tombes. Alors même si la personne n'est pas forcément extrêmement connue, etc., les photos sont recensées avec l'endroit où est la tombe, etc. Enfin, ça, il y a beaucoup de travail qui est fait.
Un travail collectif d'anonyme, en fait.
C'est ça.
D'accord. Et puis, je pense à ça, toi qui es journaliste, en fait, quelque part, ça recoupe un peu avec ton métier, quoi, de faire des enquêtes comme ça. J'imagine que ça, c'est un petit lien, quoi, que cette passion de recherche. Non, peut-être que je me trompe, hein, mais.
Bah oui, non, si, complètement. Complètement. Bah après, c'est de la recherche un peu plus historique, ouais. Enfin, c'est là où c'est différent, c'est que c'est sur des personnes mortes, quoi.
Oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai découvert un mot. Alors, je pense que tu me vois venir. C'est la taphophilie. Donc, qui désigne la passion, enfin, tout du moins, un intérêt prononcé, on va dire, pour les cimetières.
C'est ça.
Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est une passion pour toi depuis longtemps, ou est-ce que tu t'es découvert taphophile, voilà, avec cette aventure au Père Lachaise?
Moi, c'est le Père Lachaise, ma taphophilie, disons, prend racine dans le Père Lachaise totalement. Maintenant, je suis très fan de cimetières maintenant. Enfin, je vais dans des cimetières quand je suis en vacances, dans d'autres villes, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'avais avant. J'étais pas quelqu'un de très, quand j'étais petite notamment, de très sereine avec l'idée de la mort. J'étais plutôt celle à qui on ne dit pas qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'elle est très sensible. Et du coup, voilà, j'étais pas la candidate idéale pour me passionner pour les cimetières. C'était plutôt quelque chose qui me faisait un peu peur. Mais je pense que dans le fond, ça m'attirait un peu aussi. Justement, ce truc qu'on avait un peu déterminé, que j'étais, qui n'était pas pour moi, quoi, la mort. J'ai appris, grâce au cimetière, je pense, à enfin, je me suis un peu réconciliée avec l'idée de la mort dans la vie, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est un peu deep, mais...
Je sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai vu que tu disais en gros que tu ne croyais pas en Dieu, mais que ton image de la tombe et du recueillement, je sais plus comment tu formulais ça, mais
ouais.
tu y trouvais maintenant un intérêt, en fait, à ces lieux où il y a
c'est
des
ça.
Tombes.
Bah, je suis pas croyante, et j'avais un peu considéré jusque-là que le cimetière, c'était quelque chose qui était plus de l'ordre de la religion, d'une façon ou d'une autre, qui était quelque chose qui avait du sens pour ceux qui croyaient. Voilà, disons ça comme ça. Maintenant, à force de voir le cimetière comme un lieu d'histoire, je me suis pris d'intérêt pour le lieu physique sur lequel il est écrit un nom, en fait. Vraiment quelque chose de très concret, un endroit où il y a un marqueur de votre existence.
Et où on peut venir vous visiter aussi.
Fin... Et où on peut venir vous visiter et avoir un lien avec vous. Voilà, je trouve que... Après, c'est pas, je pense pas que ça veuille dire que c'est une vérité absolue. Je sais que tout le monde a des avis différents sur ça, sur le fait juste d'avoir ce lieu, cet objet physique, cet endroit. Parce que je trouve que c'est vraiment plus qu'un objet physique, c'est un lieu, quoi, qui rattache au monde des vivants. Voilà, je pense que tout le monde n'a pas cet avis-là, mais moi, c'est devenu quelque chose d'assez... Enfin, auquel je crois beaucoup maintenant, quoi.
Ouais, je partage totalement ton avis. Je ne suis pas encore allée au Père Lachaise pour aller voir ces femmes en question dont tu parles, mais
ouais.
J'arrive à percevoir ce dont tu parles et ce plaisir, quelque part, d'aller les voir.
Ouais. Je trouve qu'en fait, d'une certaine façon, c'est aussi lancer un dialogue entre ce qui n'est plus, mais du coup, l'histoire,
le passé, oui.
Le monde d'avant, le passé et le présent. Et moi, je leur parle beaucoup aux femmes que je vais voir, pas forcément vraiment et à voix haute, mais j'ai l'impression qu'elles m'ont énormément appris.
Bah, ça les rend vivantes, en fait, ce que tu
ouais.
fais.
Bah, pour moi, en tout cas, elles le sont vachement. J'ai découvert, si on revient sur l'aspect littéraire, avec le Père Lachaise, j'ai lu des autrices pour la première fois. Si on reste sur l'aspect artistique, j'ai vu des tableaux pour la première fois et je me suis émerveillée devant des tableaux pour la première fois. J'ai lu des vers de poétesse que je ne connaissais pas. Enfin, j'ai aussi développé une certaine culture que je n'avais pas avant. Qu'elles m'ont offert, entre guillemets, ou en tout cas que j'ai eu grâce à elles, et grâce au Père Lachaise, grâce à cet endroit où elles existent encore, quoi.
Oui. Oui, je comprends tout à fait. Et à quel moment est arrivée l'idée du dessin? Parce que du coup, je pense à ça. Tu dessines depuis longtemps ou...
J'ai toujours plus ou moins dessiné. Après, j'ai jamais dessiné de façon très... assidu et... Enfin, si. Je m'étais jamais impliquée à 100% dans quelque chose comme ça jusque-là, disons.
Oui, d'accord.
Bon, l'époque est relativement restreinte parce que le cimetière a été ouvert en 1804. Donc, ça couvre un temps qui est pas énorme.
Oui, c'est vrai.
Malgré tout, les sources étaient du coup forcément assez différentes. Pour les images des
oui,
femmes...
les photos n'existaient pas.
Voilà, il y a certaines où les photos n'existaient pas, il y restait quelques pauvres gravures, il y a certaines où les photos existaient, mais il n'y en a plus, où il y en a de très mauvaise qualité. Si on prend la plus vieille et assez anachronique femme enterrée au Père Lachaise, des femmes dont je parle, qui est Héloïse et Abélard, elle est morte au Moyen-Âge. Sa tombe a été ramenée ensuite dans le cimetière. Voilà, il n'existe tout simplement aucune représentation d'elle, ou alors des représentations qui ont été faites a posteriori, de tableaux, etc. En fait, à travers le dessin, je cherchais une cohérence à mettre entre tous ces portraits pour que ce soit pas non plus trop n'importe quoi, mon compte Instagram.
Oui, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, c'est parce que tous les portraits qu'on voit sur ton compte Instagram et dans le livre sont tes dessins, en fait.
C'est ça.
Et voilà, on peut voir ces femmes croquées par toi.
Ouais.
Donc oui, c'est pour ça que je me demandais à quel moment est arrivée l'idée du dessin. Et donc oui, c'est pour avoir une cohérence visuelle, en fait, à la base. Et puis parce que il manquait des photos, comme tu dis, il manquait beaucoup de documents en fait finalement.
Une cohérence visuelle, puis je trouve que ça permettait aussi un peu de les rapprocher les unes des autres.
Oui, et puis toi, ça te permettait de renouer aussi avec peut-être le dessin, j'imagine, peut-être un plaisir personnel aussi là-dedans.
C'est ça, c'est ça. Et ça me forçait un peu à être assidue.
En tout cas, moi, c'est personnellement, c'est grâce à des livres comme le tien que j'ai pris conscience de l'invisibilisation des femmes et qu'on nous donne en fait toujours des modèles masculins. Enfin ouais, ton travail, en fait, il est absolument essentiel quelque part. Et j'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect engagé de ton livre. C'est marrant parce que j'ai l'impression, quand j'ai découvert ton livre, que ta démarche de base n'était pas forcément féministe, alors que si, en fait, finalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là, mais tu nous as dit à plusieurs reprises que le féminisme, c'est quelque chose qui a dans ta vie depuis un petit moment. Ta prise de conscience au cimetière, justement, via ce biais du féminisme, que tu t'es dit, mince, je m'intéresse qu'aux hommes et pas aux femmes. Donc, quelque part, c'est grâce à ton un éveil féministe, j'ai envie de dire, que tu en es arrivé à t'intéresser à ces femmes dans ce cimetière. À titre personnel, c'est vraiment un combat pour toi, le féminisme? Ou est-ce que c'est vraiment à travers ce livre que tu as voulu t'engager?
Du coup, je pense que... Alors, à titre personnel, c'est vraiment un combat pour moi, le féminisme, et c'est vraiment derrière la démarche de base. Malgré tout... Je pense que je vois à peu près ce que tu dis, ce que tu veux dire quand tu dis que tu avais l'impression que c'était pas forcément la démarche de base, le féminisme. En fait, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'était une démarche féministe de retrouver ces femmes dont on ne parlait pas, qui avaient été invisibilisées. Ça, c'était un fait. Après, je m'étais juste dit, je vais faire des portraits de femmes, ça va être... elle est née là, elle a fait ça, elle est machin... Enfin, derrière la démarche de base, je m'étais pas dit que ça allait, qu'il allait avoir un sens féministe derrière tous ces portraits. Or, je me suis rendu compte que effectivement le point commun, le fil rouge de toutes ces femmes était quand même derrière l'histoire de toutes ces femmes, il y avait le patriarcat, il y avait des bâtons dans les roues à cause de leur genre. Des bâtons dans les roues mis soit par la société, soit par les hommes de leur entourage, soit quand elles avaient miraculeusement échappé à tout ça, et quand c'était le cas, généralement, c'était grâce à l'argent. Quand elles avaient miraculeusement échappé à tout ça, tout d'un coup, il y a le revers derrière qui est celui de ne pas parvenir à être inscrite dans le récit officiel qui devient l'histoire. Ça, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui s'est fait sans que je m'en rende compte au début et qui s'est imposé à moi, en fait. Rien que raconter leurs histoires et les mettre en regard, créer quelque chose de féministe aussi, et pas seulement par le fait qu'on parlait de femmes oubliées, entre guillemets, quoi.
Bah, ouais, en fait, je pense qu'au-delà de l'aspect féministe, du combat, entre guillemets, féministe, je trouve que c'est surtout qu'il y a un aspect culture générale, en fait. Et
ouais.
Ça permet de prendre du recul sur comment est transmise la culture, en fait, sur la subjectivité terrible des livres d'histoire, sur le fait que le savoir, il est orienté. Ça remet vraiment en question toute notre éducation.
Ouais.
Et dans tous les domaines, en fait, je trouve, c'est vraiment tout, quoi. La peinture, la musique. Enfin, d'autant plus avec ton livre, on s'en rend d'autant plus compte que c'est vraiment tous les domaines qui sont touchés.
Michel Perrault, qui est une historienne féministe, dit un truc très 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 simple qui est l'histoire, c'est un mot qui correspond à deux réalités distinctes. La première, c'est ce qui s'est passé, et la deuxième, c'est ce qu'on a raconté. Les femmes étaient présentes dans ce qui s'est passé, forcément. Enfin, c'est 50% de la population, elles se sont pas réveillées au XXe siècle tout d'un coup d'un long coma. Elles étaient là, elles ont forcément fait des choses, existé, participé à la marche du monde, et généralement, elles disparaissent à l'étape du récit, dit Michel Perrault.
Mmh.
Et ouais, ça, c'est vraiment ça qui est intéressant aussi, c'est on a peu d'histoire en tant que femme.
Oui, de récits sur ces femmes, ouais.
Voilà, on a l'histoire derrière nous, on a l'histoire globale, commune, etc., mais savoir quelles ont été les étapes de... l'histoire des femmes, entre guillemets, si c'est...
Oui, non, mais on a partout ce même problème, en fait, je pense. ce sont les hommes qui font l'histoire et c'est assez rageant de se dire que il y a des femmes qui étaient vraiment très connues en plus à leur époque,
ouais.
Je pense à Rosa Bonheur notamment,
ouais.
Qui sont plus forcément aujourd'hui quoi. Et bah oui, si personne raconte leur histoire, bah on les oublie, hein, c'est automatique, ouais. Quoi.
Après, effectivement, on voit qu'heureusement, on commence à revenir en arrière. Rosa Bonheur,
oui.
après l'oubli assez important, a été remise. Portée à bout de bras par des militantes lesbiennes, des historiennes féministes qui ont redécouvert son œuvre, qui l'ont portée inlassablement. Et maintenant, au moment de son bicentenaire, on commence à avoir des expositions, des articles, des gens qui parlent de Rosa Bonheur. C'est-à-dire on l'a ressortie d'un oubli qui existait après la célébrité la plus totale. Mais c'est probablement un peu une exception.
Une phrase qui résume un peu tout, c'est « derrière chaque grand homme », ou je ne sais plus comment c'est, « derrière chaque homme se cache une femme ».
Ouais.
Et c'est presque cynique, en fait, je trouve.
Ouais,
parce que...
c'est extrêmement cynique.
Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une de ces femmes que tu as découvertes au Père Lachaise ? Peut-être une pour laquelle tu as eu un coup de cœur en particulier, ou je ne sais pas, qui t'a marqué plus que les autres ?
Souvent, quand on me pose cette question, je réponds Rosa Bonheur, mais je crois que je ne vais pas répondre Rosa Bonheur parce que... Justement, ce que tu viens de dire, la phrase « derrière chaque grand homme, il y a une femme », ça me fait plutôt penser à Laura Marx. Laura Marx, c'était la fille, la deuxième fille de Karl Marx. Donc, fille de Jenny, la femme de Karl Marx, qui est un peu considérée comme la grande femme derrière le grand homme, justement. Qui s'est beaucoup occupée de son secrétariat, d'écrire pour lui. Qui aussi est considérée comme avoir quand même pas mal... participer à la pensée, voilà, parce que c'était un couple très proche. Et donc, dans la famille Marx, il y avait aussi les filles. Et Laura, qui est la deuxième, a épousé l'écrivain français Paul Lafargue, l'auteur du Droit à la paresse, notamment. Et c'était une fille très, très instruite. Elle parlait plusieurs langues, comme ses sœurs, parce que leur père les avait instruites lui-même. C'était vraiment des filles brillantes. Et elle s'est établie en France avec son époux, et elle est devenue une espèce de militante, de marxiste professionnelle, disons, de marxiste française professionnelle, même plutôt, répandait la bonne parole, où elle faisait des meetings, enfin des conférences, elle prenait la parole en public avec son mari, etc. Et elle a aussi été, grâce au fait qu'elle parlait plusieurs langues, elle a aussi été la traductrice en français des œuvres de son père.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et du coup, Laura Marx, c'est une des premières femmes auxquelles je me suis intéressée au Père Lachaise. Elle est enterrée face au mur des fédérés. C'est une des seules femmes, peut-être, mais elle n'y est pas en qualité de communarde, mais en qualité d'épouse de Paul Lafargue.
Voilà.
Et donc, Laura, elle a fait des choses, hein, la preuve. Elle a traduit des bouquins, pris la parole, assez inlassablement tout au long de sa vie. Et malgré ça, on a zéro, disons.
Oui, on connaît même pas son prénom. Enfin, voilà, tu parles d'elle, je pense pas que beaucoup de personnes se disent « Ah mais oui, non mais bien sûr
!» Ouais, pour la postérité, elle est fille de Marx, femme de Lafargue. Mais même hors de ça, on a quasiment aucune information sur sa vie, très très peu. On peut à peu près... je sais pas, la situer avec les informations qui sont publiques d'elle, on peut la situer à quelques endroits, on sait où elle habitait, on sait où elle a parlé quelquefois, mais c'est vraiment extrêmement parcellaire, malgré l'instruction, malgré l'érudition globale de cette famille, la célébrité aussi de ce père, etc., malgré tout ça, elle a vraiment pas laissé de traces. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, parce que c'est quelque chose de très triste, même autour de la mort de Laura. En fait, son mari était un militant pour le droit à mourir dans la dignité, et il avait décidé qu'il mourrait avant ses 70 ans, tant qu'il était en pleine possession de ses moyens. Et donc, il s'est suicidé à 70 ans, entraînant Laura dans la mort.
D'accord.
Mort dont on ne sait pas, faute de lettres, d'informations laissées avant de mourir par Laura Marx, dont on ne sait pas si c'était consenti. On s'est souvent présenté comme un suicide de couple. Or, si elle n'avait pas donné son accord, c'est pas un suicide de couple, c'est un meurtre. Et c'est pas la même chose, et c'est quelque chose qu'on ne saura, jamais. Et c'est la, pour moi, un peu la, vraiment la,
l'exemple type.
Ouais, de cette existence sans les, sans laisser trace, ou si peu.
Oui, non, mais puis j'imagine, alors moi ça me le fait, j'imagine que pour toi, d'autant plus après avoir fait toutes ces recherches, après ton livre, mais en fait, petit à petit, on se rend compte de toutes ces histoires qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra probablement pas, de tout ce qui a été effacé. Enfin, c'est, je pense que c'est, oui, c'est incommensurable. Enfin, c'est, on se rend même pas compte, en fait, je pense, de toutes ces choses-là.
Ouais.
Personnellement, je me rends compte de ça à mon niveau, alors que je fais pas forcément de recherche personnelle
ouais.
là-dessus. Mais rien que quand je fais des portraits, par exemple, là, par exemple, j'ai fait un épisode sur Agatha Christie. Quand je fais des recherches comme ça, alors sur une femme en plus, hein, mais en rentrant en détail sur son histoire, par exemple, pour son livre Le Crime de l'Orient Express, elle s'est inspirée de deux faits divers. Et il y en a un, c'est la disparition d'un bébé. Et quand je suis allée sur Wikipédia pour avoir des informations sur cette disparition, on dit que c'est la disparition d'un aviateur célèbre, machin chose, et de sa femme. Alors qu'en fait, quand on cherche un peu, j'ai eu la curiosité de cliquer sur le nom de cette femme. Et en fait, elle était elle-même aviatrice.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, c'est terrible. Plein de petites choses cachées comme ça. Et du coup, bah, j'ai pris le parti pris dans cet épisode de ne pas dire qui il était, ni elle, ni personne. Parce que du coup, bah, il n'y a pas de raison de faire de traitement de faveur et de dire l'enfant du célèbre aviateur. Enfin voilà.
Ouais.
Enfin, on se rend compte qu'il y a tellement de choses cachées. Et je pense que comme toi, je commence à avoir un œil très acéré sur tout ça. Enfin,
ouais.
C'est horrible, quoi.
Bah ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et pour le, bah pour Laura, par exemple, qui est vraiment une de celles qui m'a vraiment marquée. Je sais pas. Après, c'était aussi une des premières, donc c'est un peu pour ça. J'ai fait des recherches dans les archives, des archives familiales qui ont été données aux archives nationales.
Ouais.
Dans lesquelles il y a notamment les lettres de condoléances reçues à la mort de Laura et Paul. Par le neveu de Laura, le fils de sa sœur Jenny, qui est aussi lui, qui s'est aussi marié à un Français et qui du coup avait aussi une descendance française, et les lettres de condoléances qui sont quand même adressées au neveu de cette femme qui vient d'être tuée. Les lettres de condoléances, la plupart du temps, ne la mentionnent même pas, ne mentionnent que Paul Lafargue, qui du coup était, lui, avait une assise, était un militant communiste et un écrivain respecté. Qui était quelqu'un qui avait, ouais, qui avait une importance aux yeux de la communauté. Des fois, elle est citée comme Monsieur et Madame Paul Lafargue. Des fois, elle est la citoyenne Paul Lafargue. Laura Marx, elle existait déjà plus le lendemain de sa mort. En fait, c'est quelque chose d'hyper dur à réaliser. Enfin, moi, ça m'a mis un énorme coup quand je me suis rendu compte de ça. Après, ça m'a donné encore plus envie de changer ça. De faire en sorte que les gens aillent sur la tombe de Laura Marx, pas pour voir Paul Lafargue, mais pour voir Laura Marx, qui sache même le peu qu'on sait de sa vie, qui sache l'histoire de sa mort, qui sache son travail, son intérêt pour la pensée marxiste, pour le communisme, ses traductions, enfin voilà.
Ouais, ouais, bien sûr. Ça, je trouve que ça donne encore plus d'essence dans le moteur, j'ai envie de dire, pour se battre pour tout ça, parce que vraiment, ça rend fou. Enfin, c'est...
Ouais.
Plus on creuse, plus on trouve, en fait.
Ouais.
Question d'ordre un petit peu plus général sur la publication de ton livre. Qu'est-ce qui t'a plus plu, en fait, dans cette aventure de publication ?
Eh ben, on s'est lancé là-dedans avec Cambourakis en 2021. Et moi, ça faisait depuis 2019 déjà que je travaillais là-dessus toute seule. Ce que ça a changé, enfin ce qui m'a vraiment plu, c'est d'avoir des gens en fait qui travaillent avec moi, de voir des gens s'emparer de mon travail, avoir des idées, avoir des choses à ajouter, des je sais pas par exemple Frédéric Cambourakis qui dès qu'on s'est rencontrés pour la première fois, avait déjà plein d'idées sur ce à quoi ça pouvait ressembler. Penser à un plan détachable, à des parcours à suivre, à l'épaisseur de la couverture, à la taille du livre, enfin, des trucs qui me semblaient tellement abstraits que j'arrivais pas du tout à imaginer. Tout d'un coup, ça fusait. Lui, il voyait exactement ce qu'on pouvait faire. Et ça m'a... Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Charlotte, qui est l'assistante d'édition, qui me renvoyait mes textes en me disant « Mais alors ça, il faudrait peut-être... Qu'est-ce que t'en penses si on précisait ?» Et qu'elle avait toujours Elle avait toujours raison et c'était toujours bien mieux que quand moi j'étais juste toute seule avec mon truc et que je sais pas aussi Christophe qui est le graphiste qui est un fan de typographie ancienne, c'est quelque chose que j'adore aussi mais pas au même niveau que lui parce que lui c'est vraiment un collectionneur, qui m'a montré en fait ce qu'il avait prévu pour les lettrines du livre. C'était une typo dans sa collection, une ancienne typographie de marbrier, donc les gens qui gravent les tombes.
Ah d'accord.
Des années 40. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il a complètement compris ce que je cherche à faire. Enfin,
oui.
Juste dans ce petit truc, je me suis dit, bah, détail, en fait, là, oui. je bosse avec des gens qui me comprennent et ça, j'ai trouvé ça trop bien.
Oui, enfin, mais vraiment
Ouais, c'est ça. Le collectif, c'est un peu un truc qui me manquait. Même si j'ai adoré faire ce travail, voilà.
L'émulsion, j'imagine que ça a créé de voir que d'autres s'intéressent à ce que tu fais et qui s'emparent aussi de ce que tu as fait. Enfin,
c'est ça.
Bah écoute, on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous partager un livre ou une série que tu aimes particulièrement ? Alors, soit quelque chose d'ancien, soit quelque chose que tu as découvert récemment.
Je dirais en série, quelque chose qui m'a marqué récemment. C'est la série I May Destroy You de Miraila Coel. C'est l'histoire d'un viol. Pas forcément très joyeux dit comme ça, mais ça commence, disons, plutôt par un viol. Et après, c'est l'histoire de la fille qui l'a subi et qui se reconstruit, ou en tout cas vit avec. C'est une créatrice de série, de série britannique, qui est personne brillante, qui avait fait une autre série qui s'appelait Chewing Gum, qui était moins dure, mais donc c'est une série extrêmement dure, mais c'est quelque chose qui est, enfin c'est une série qui est vraiment, qui m'est vraiment restée dans sa construction, dans la façon dont elle fait évoluer son personnage, dans la force du personnage, dans ce qu'elle donne à son personnage, pour se reconstruire, pour vivre sa vie malgré ou avec ou voilà ce qui s'est passé. Et c'est vraiment une super super série qui parle de consentement et qui parle d'être une jeune fille et voilà.
D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Camille, en tout cas, d'être venue nous parler de ton livre. Voilà, quand on pense au Père Lachaise, on pense aux hommes célèbres, mais maintenant, plus d'excuses. En tout cas, ton livre donne vraiment envie d'aller visiter les tombes de toutes ces femmes et de s'intéresser à leurs histoires. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour ton travail et merci encore une fois d'être venue nous parler de tout ça sur Le Banquet.
Et ben, avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçue.
Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Je vous dis à la prochaine avec un nouveau Banquet littéraire.